France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Adèle Rosenfeld. Merci pour votre livre L'Instinction des vaches de mer. C'est à la fois un magnifique récit d'aventure qui nous fait découvrir ce qu'étaient les expéditions naturalistes des siècles passés, mais c'est aussi un miroir. En prenant les vaches de mer comme ambassadrices des espèces disparues ou menacées de disparition, le récit nous questionne sur notre rapport à la biodiversité et aux menaces qui pèsent pour elle. Bravo pour avoir réussi à combiner ces deux aspects dans votre livre.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On ne sait pas pourquoi une image se forme, ni pourquoi une obsession vous prend. C'est la narratrice du dernier livre d'Adèle Rosenfeld qui ouvre ainsi la deuxième partie de son texte, quand la première nous avait menés, en plein XVIIIe siècle, au cœur d'une expédition dans les eaux glacées du Pacifique Nord. Le naturaliste allemand Georg Wilhelm Steller y découvrait l'existence d'une espèce animale gigantesque, les vaches de mer. Obsession donc pour ces gros animaux qui ne survivront pas longtemps à leur découverte par les humains. Les histoires de marins sont des histoires de séparation et de disparition, deux motifs que tisse ensemble le livre de l'autrice qui est notre invitée. Ensuite, et comme chaque semaine, on parlera littérature jeunesse à quelques jours des manifs ou grèves féministes ou ce que vous voulez autour du 8 mars. Raphaël Bott a lu pour nous un roman pour adolescents susceptible de nourrir quelques prises de conscience. Elle nous en parle dans Lecture Jeunesse. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Adèle Rosenfeld.
Bonjour Marie Richeux.
Soyez la bienvenue. L'extinction des vaches de mer, c'est le titre de ce nouveau roman paru aux éditions Grasset. On est ravis de vous recevoir ici dans le Book Club pour évoquer ce texte qu'on a beaucoup aimé. Bienvenue dans le Book Club. Ici, tout commence toujours par un questionnaire lecture. On se demande quel genre d'aventure nos invités ont eu avec les livres, avant peut-être que d'en écrire. Dans un précédent roman, vous évoquez la surdité partielle, en tout cas l'une de vos oreilles, et vous parlez dans un très beau texte de votre rapport au son. Et vous évoquez notamment en exergue de ce texte les mots, en citant Gerasim Louka, « Chaque mot est un trou, un abîme, un piège ». Toujours dans ce texte-là, vous écrivez « Seule lecture pouvait calmer l'angoisse de la disparition, voire les mots ». On imagine donc que c'est un rapport particulier que vous avez eu avec la lecture. Ça commence comment, cette histoire pour vous ?
Eh bien, ça commence... Je me souviens très très bien d'un texte qui m'avait énormément marqué, à défaut de me souvenir de quand est-ce que j'ai commencé vraiment à pouvoir déchiffrer le langage, mais enfin, j'ai su très tôt que c'était là, par là, que je pourrais m'en sortir, parce que c'était comme une...
Quand vous dites par là, c'est-à-dire la lecture.
Exactement, ouais. Parce que comme le langage était troué, comme j'avais beaucoup de mal à acquérir le langage et que les mots étaient déformés, c'est par la lecture que j'ai compris que je pourrais réussir à comprendre et à emmagasiner énormément de vocabulaire et d'avoir une lecture du monde qui me faisait défaut par ailleurs, et que c'était vraiment le refuge qui me permettait d'apprendre la langue française et de pénétrer dans le langage, donc et d'avoir
comment
vraiment...
vous comprenez ça?
Quand est-ce que je comprends
oui,
ça?
Oui, ou avec quel texte, ou comment, ouais.
Eh bien, c'est vraiment le texte du Prince des mots tordus, la belle histoire du Prince de mots tordus.
Je me souviens très bien.
Parce que je me suis de PEF, et qui est vraiment l'histoire d'un prince, comme son nom l'indique, mots tordus, qui ne comprend le langage qu'à travers des mots déformés, enfin que des homonymes, et il prend un mot pour un autre, il comprend pas les expressions. Et moi, je m'identifiais complètement au prince de mots tordus, c'est-à-dire que j'étais vraiment celle qui lisait le monde totalement différemment, parce que dans l'histoire du prince des mots tordus, il y a vraiment toutes les images correspondent aux homonymes qu'il a entendus. Par exemple, à un moment, il parle d'une flamme en parlant d'une femme. Bon, c'est une femme qui apparaît, mais
qui brûle.
C'est que tout est déformé comme ça, et moi j'avais exactement ce même sentiment de langage qui est celle du prince de mots tordus. Et au début, il y a quelque chose de très jouissif, puis à un moment, il y a un passage dans le livre où il est à l'école avec ses camarades qui se moquent de lui parce que tous ces mots ne sont jamais appropriés. Et là, je partageais cette petite honte secrète avec le prince de mots tordus. Mais après, par l'école, il arrive à sauver son langage troué, à le distordre avec la princesse des écoles, qui va redresser son langage. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'orthophonie. Donc, je me suis vraiment beaucoup identifiée à cette histoire du prince des mots tordus. Mais c'est resté, pour moi, c'est toujours ce rapport au langage qui me situe, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec la disparition, les mots déformés, une imagination qui toujours se loge là où il y a plein de malentendus. Mais il y a aussi une très grande créativité dans ce rapport aux mots déformés.
Oui, c'est presque ce qui me venait à l'esprit en vous écoutant, c'est que dans Les Méduses n'ont pas d'oreilles, vous rendez aussi compte d'un rapport au monde. C'est peut-être étrange de le dire comme ça de ma part, mais aussi augmenté par cette surdité partielle, c'est-à-dire que la puissance des images et ce qui vient se loger dans les trous des choses que vous n'entendez pas ou que vous entendez mal, crée aussi un rapport au langage et au monde qui est presque, je sais pas comment le dire, augmenté poétiquement de ça. Et du coup, le fait d'en revenir à une langue un peu plus sage, qui serait moins trouée à Adèle Rosenfeld, ça n'a pas été décevant. Il y avait que quelque chose de rassurant, il n'y avait pas quelque chose de diminué. Je sais pas si je me fais bien comprendre dans ma question.
Si, je comprends très bien, mais au contraire, j'éprouvais une très grande jouissance à pouvoir avoir comme si j'avais, en fait, c'était comme si j'avais la bande originale de ce qui se produisait dans le monde, d'avoir accès aux mots, les livres, c'était vraiment tout ce qui me manquait par ailleurs, comme si vraiment c'était un endroit de grande maîtrise. Enfin, c'est là où
je c'était pas troué, quoi, en tout cas.
C'était pas troué, c'était là où je pouvais vraiment avoir quelque chose de stable. Donc c'était vrai, même si dans les textes il y a toujours un jeu d'ambiguïté des mots, donc je retrouvais quand même, enfin, il y a toujours cette ambiguïté là en permanence. Toutes les histoires sont des mystères. Les textes sont des mystères, mais il y avait quand même ce quelque chose qui est extrêmement rassurant d'avoir des phrases complètes. Donc bien au contraire, je voyais ça comme une grande libération, que là où je me sentais absente dans le monde de la parole, je trouvais dans l'écriture, enfin dans la lecture, comme une mélodie,
pleine, quoi.
Qui était tout à fait audible, enfin, en tout cas, qui était visuelle, dans laquelle je pouvais tout à fait me reposer.
Qu'est-ce que ça a fait comme identité de lectrice? Est-ce que ça vous a accroché au monde littéraire, au monde des livres, d'une façon singulière?
En tout cas, ça a fait que ça a été un refuge, et j'ai été une lectrice compulsive. Hein, je lisais énormément, et ça a fait aussi que la lecture est aussi devenue très très visuelle. J'avais un rapport aussi à la lecture qui passait par comment fonctionne une phrase, la ponctuation. Enfin, il y a quelque chose de très sensoriel avec la lecture, comme dans mon rapport au monde, comme à l'oral aussi, aux paroles trouées, mais sur la page, j'étais dans un rapport très très sensoriel. J'ai toujours eu ce rapport très organique à la page, à l'encre qui s'efface sur les pages, tous les petits détails de la page, et aussi à la langue, enfin à toute la complexité de ce qu'est la langue, toutes ces nuances que je n'arrivais pas forcément à saisir à l'oral. Là, je les trouvais dans l'écrit, et donc dans tout ce vocabulaire immense dans lequel, parce qu'il y a aussi les registres de langue, mais il y a aussi toute l'histoire littéraire où les mots n'ont plus les mêmes sens en fonction des époques. Enfin, j'avais l'impression que ça me permettait vraiment aussi de dénouer tous les rapports aux mots dans le temps.
Vous citez donc en exergue de ce premier roman à la fois un texte de Thierry Metz, donc plutôt du côté de la poésie ouvrière, d'ailleurs on avait consacré un book club à ce poète-là avec Mathilde Wagman, et Gerasim Louka, on est aussi du côté de la poésie, donc dans les deux cas il y a un rapport qui est tendu avec le langage, et en allant chercher Louka, vous montrez bien que le rapport troué au langage est quelque chose qui est une expérience qui peut bizarrement se partager, donc c'est intéressant aussi. Adèle Rosenfeld, est-ce que vous voulez citer d'autres personnes qui auraient été importantes sur votre parcours en tant que lectrice?
Déjà, pour revenir à Gerasim Louka, ça m'avait énormément frappait, c'était qu'il fonctionne avec le bégaiement. Mmh. Donc, c'est une déficience du langage qui entraîne beaucoup de créativité. Mmh. C'est par le bégaiement de la langue que tout d'un coup, il y a d'autres sens qui émergent. Mmh. Et donc, cette idée de partir toujours d'un manque, d'une déficience, pour effectivement l'augmenter, comme vous le disiez au départ, c'était vraiment ce qui m'a beaucoup porté dans l'écriture.
En l'occurrence, on peut renvoyer toutes les personnes qui seraient curieuses de ce travail-là, qui ne le connaîtraient pas, à quelque chose qui peut se trouver très facilement sur Internet, qui est sa performance autour de Passionnément, et où, performant ce poème Passionnément, il y a tout un tas d'interstices qui viennent s'engouffrer et des mondes dans un seul mot qui viennent raconter beaucoup, 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 beaucoup de choses. Voilà. Parenthèse fermée, mais comme ça nous permet d'avoir évoqué Hiroshi Mnouka et de donner des pistes à celles et ceux qui veulent le découvrir.
Exactement, et c'est aussi ce rapport très labial au langage, très guttural. Enfin, c'est-à-dire qu'on sent vraiment les mots nous pénétrer dans la gorge. C'est-à-dire qu'il y a le jeu très très enfantin, très ludique de sentir les mots dans la bouche. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'aime faire quand j'écris. C'est aussi donner à rendre compte de la mot dans la bouche, du plaisir de la labialisation comme vraiment un plaisir primitif, premier, qui dénote un rapport au langage extrêmement, extrêmement salvateur. Mais pour en revenir à d'autres auteurs qui ont pu beaucoup me marquer, j'ai beaucoup, plus jeune, je lisais beaucoup des nouvelles de Maupassant, des nouvelles de Roald Dahl, parce que j'avais vraiment le sentiment que dans la nouvelle, qui est un mini roman en soi, j'avais l'impression qu'on pouvait tenter de répondre aux questions existentielles, tenter de...
Pourquoi là en particulier ?
Pourquoi ?
Pourquoi là, dans un texte court en particulier ?
Parce que j'avais le sentiment que, avec l'idée d'une chute, que tout le schéma actantiel est vraiment...
Plus tendu, quoi ?
Est tendu, et surtout, la possibilité de répondre à des questions existentielles se trouve sur des temps très courts. Mmh. Moi, j'avais un peu cette obsession de savoir, mais quel est... qu'on réponde à des questions existentielles du mystère de la vie. Mmh. Et la nouvelle, les nouvelles de Maupassant ou les nouvelles de Roald Dahl, j'avais le sentiment que, ou même j'avais beaucoup lu toutes les nouvelles d'Hitchcock, et à un moment il dirige toute une collection d'histoires à faire peur, de toutes ces nouvelles-là. J'avais le sentiment que ça répondait à des questions sur qu'est-ce que les caractères de l'homme, un peu comme une étude de mœurs, et qu'on me proposait un peu des clés sur l'existence humaine, mais à l'échelle très très réduite.
Est-ce que tu t'es toujours pris, Adèle Rosenfeld, dans l'idée qu'il vous fallait, peut-être plus qu'une autre jeune femme, lire le monde, c'est-à-dire cette surdité partielle et la nécessité de lire notamment sur les lèvres, mais aussi de lire un langage que vous n'entendiez que partiellement. Vous étiez plus avide encore qu'autre personne de le comprendre.
Vous pointez quelque chose de tout à fait juste, c'est vraiment ça. C'était un besoin absolument de comprendre et presque d'anticiper tous les trous, toutes les incompréhensions que j'avais. Et la nouvelle, dans ce qu'elle avait quelque chose de très immédiat, et de pouvoir effectivement combler effectivement tous les questionnements sur les hommes.
Et ouais, qui sont les autres, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qui se trame,
qu'est-ce qui se passe, exactement.
Qu'est-ce qui se passe. Et un petit peu plus tard, est-ce qu'il y a des lectures marquantes que vous voulez évoquer avant qu'on passe à l'évocation de votre propre roman?
Je dirais Giono, Colline notamment, parce qu'il y a vraiment une écriture extrêmement sensorielle. Et comme il y a toujours cette complexité d'être traversé par les sensations et tenter de les rendre compte par l'écriture, mais aussi de se sentir complet à l'endroit où moi j'éprouvais un manque. Dans Giono, il y a une aventure complètement synesthésique de la langue. Et en même temps, une très grande observation, une très grande acuité aux personnages et aussi aux paysages, et tout se confond. Et ça a été très, pour moi, très, très marquant d'avoir l'impression qu'il y avait que c'était pas un sens qui prédominait, c'était tous les sens qui étaient convoqués, et que c'est par tous les sens qu'on arrivait à lire le monde. c'était quelque chose que je trouvais extrêmement rassurant et absolument magnifique aussi.
Mmh. Aussi, cette forme de continuité sensorielle qui venait aller contre ce que vous décrivez de manière si puissante dans Les Méduses n'ont pas d'oreilles, du morcellement aussi, de la séparation, de tout ce qui crée des trous. Il y avait vraiment quelque chose dans la langue pleine de Giono, qu'on retrouve aussi dans le roman qu'on va évoquer aujourd'hui, qui est plein d'organicité animale et humaine. On va le faire juste après une chanson qui s'appelle « Welcome to my island » de Caroline Polachek, et qui répond à ce que vous évoquez de l'île. On ne sait pas ce qu'est une île. Polachek nous invite sur la sienne.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La digression, parfois, permet d'éviter qu'on nous trouve dévêtus dans l'évidence. C'est une phrase de votre dernier livre, Adèle Rosenfeld, et l'on peut dire que vous empruntez un long chemin de digression, un chemin peut-être de 55 millions d'années, dans votre dernier roman. En embrassant totalement son obsession pour les vaches de mer, cette espèce maritime gigantesque, découverte puis détruite par l'homme, votre narratrice trouve un moyen, comme un autre, de faire avec la disparition en général, et en particulier celle de son grand-père, lequel avait trouvé, lui aussi, un moyen, comme un autre, de faire avec son histoire d'enfant juif cachée pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans une construction binaire qui reprend dans un premier temps la forme du récit d'expédition scientifique du XVIIIe siècle pour basculer ensuite dans un temps très contemporain, vous montrez combien la littérature est le meilleur moyen d'abolir les frontières temporelles. On continue de parler de ce texte avec vous, L'extinction des vaches de mer, paru aux éditions Grasset en cette rentrée littéraire de janvier 2026. Je le dis, cette première partie prend vraiment la forme à la troisième personne d'un récit d'exploration, donc c'est plutôt le récit du récit d'exploration maritime et scientifique, Adèle Rosenfeld. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette forme-là que vous embrassez ou que vous pastichez en première partie ?
J'ai toujours eu une fascination pour la littérature scientifique, parce qu'il y a quelque chose dans la littérature scientifique d'extrêmement précis et vraiment dans une description extrêmement à la fois très précise d'une réalité et aussi la façon de s'approprier cette réalité-là. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est très parlant, qui est parallèle avec la dimension poétique, parce que le poète, de la même façon, il va chercher à observer de façon très très précise ce qui l'entoure, un motif, comme le scientifique, et ensuite il va essayer vraiment, avec des mots extrêmement choisis, comme le scientifique, avec la concision, le choix des mots, il va essayer de rendre compte d'une réalité et pour l'encapsuler, pour la préserver, pour l'archiver. Et aussi, parfois, il va être confronté de la même manière que le scientifique au fait d'inventer des mots, de même de trouver des néologismes qui correspondent vraiment à la réalité observée. Donc il y a vraiment dans la littérature scientifique quelque chose qui, chez moi, faisait vraiment écho au devoir d'observation, en fait, de l'écriture, enfin au pouvoir de l'observation de l'écriture et au fait de rendre compte d'une réalité. Donc il y a cette fascination là chez moi pour la littérature scientifique. J'avais envie de m'en amuser et ça me permettait aussi d'approcher les souterrains. Les souterrains obsessionnels, inconscients, que je trouvais fascinants, surtout que le roman d'aventure, c'est un roman souvent qui est à clé. Il y a souvent, par exemple, dans Moby Dick ou dans Vendredi ou la vie sauvage, énormément de psychologie. C'est vraiment des romans de l'inconscient aussi humain. Et donc, j'avais aussi envie de travailler sur cette forme-là pour en approcher d'analogies inconscientes et de rendre compte d'une vie sous-marine.
Absolument, c'est exactement ça. Mais cette vie sous-marine, nous la décelons que quasiment arrivée aux trois quarts de votre roman, qui lui aussi est bref, mais très dense, Adèle Rosenfeld. Et finalement, les motivations profondes ou ce qui se trame dans les fonds marins de votre texte se révèle pour la lectrice et le lecteur, et peut-être pour vous aussi en tant que narratrice, autrice, presque tardivement. En restant dans cette première partie, on arrive dans une sorte d'expédition maritime, 18e siècle, il fait très froid, les gars ont super faim, ils sont très très fatigués, il y en a qui meurent. Est-ce que vous pouvez planter le premier décor d'une certaine manière avant qu'on plonge sous l'eau et qu'on arrive aux motivations profondes du texte, Adèle Rosenfeld?
Le texte, ça commence comme tous les romans d'aventure, souvent par un naufrage. C'est vraiment un topos littéraire, le naufrage. Et hélas, ce que je pointais aussi, c'était la sorte de déception humaine qu'est le naufrage, c'est-à-dire que le capitaine s'enterre tout de suite dans le sable, s'auto-enterre, et c'est aussi toute la hiérarchie humaine qui s'effondre avec le fait de s'enterrer dans le sable. Et puis ensuite, c'est aussi la défaite d'une mission, c'est la défaite
de la conquête aussi,
de la conquête. Et c'est la défaite, et du coup, c'est la possibilité de réinvention. C'est-à-dire, quand quelque chose s'effondre, qu'est-ce qu'on va recréer? Et donc, c'est comme ça qu'il y a cette première image qui est celle du naufrage, et ensuite celle de la découverte de cet animal, qui est la promesse du sauvetage de l'équipage.
Parce que la découverte de cet animal, qui est d'abord supposée, puis attendue, on espère que la marée va apporter ce gros animal étrange, va aussi pouvoir à la fois nourrir, on l'a dit, l'appétit de nomenclature. Il y a aussi un très grand enjeu scientifique à ce moment-là. Il y a presque une compétition sur qui va pouvoir mettre des nouveaux mots sur les terres, sur les espèces, sur les phénomènes physiques. Mais en l'occurrence, ça va aussi concrètement les nourrir, puisque de cet animal-là, ils vont se repaître à la fois d'un point de vue symbolique et d'un point de vue charnel, Adèle Rosenfeld. On va écouter un premier extrait de l'extinction des vaches de mer et du cours scientifique que donne Steller à ses compagnons.
À l'époque, on ne connaissait pas les mammifères. Les êtres vivants étaient distingués par la forme de leur corps et le nombre de pattes. Les cétacés appartenaient aux poissons dans la classification d'Aristote, dans laquelle baignait le siècle. Avec la vache de mer, Steller était face à un animal extraordinaire, déjouant la nomenclature. Il l'appelait poisson, avec l'intime conviction que la dénomination était inappropriée. Il avait le sentiment de toucher du doigt le futur, qu'en observant et en plongeant ses mains dans les organes de l'animal, en mesurant la taille de chacun de ses membres, il pataugeait dans les repères établis et faisait se mouvoir les traits du tableau avec lequel il avait fait ses classes, où étaient séparées les cases, les quadrupèdes, les oiseaux, les amphibies, les poissons, les insectes, les vers. Pour finir ce premier cours, Steller versa de la graisse de vache de mer dans une tasse, la but, la tendit à Yushin, qui à son tour porta le récipient à sa bouche pour le faire tourner, chacun y trempant ses lèvres, se délectant de la fin du cérémonial.
Bonjour le Book Club, bonjour Adèle Rosenfeld. Il y a Steller, le naturaliste allemand, le héros de ce livre, si on peut le décrire ainsi, avec son positionnement que j'ai trouvé ambigu, parfois enfermé dans sa tour d'ivoire, parfois désireux de transmettre ses connaissances, mais qui à la fin échoue à protéger les vaches de mer. Et en voyant ce personnage, je me questionnais sur la part de réalité historique et la part de fiction dans ce qu'était Steller dans le livre. Merci.
Merci à vous, Wilfried, pour cette lecture. Adèle Rosenfeld, on a entendu un premier extrait de l'extinction des vaches de mer. Donc, ils ont découvert cet animal sur cette terre soi-disant incognita. On y reviendra. Et voilà, ce Steller fait court à partir de l'animal. Wilfried vous demande quelle est la part de la réalité historique de ce personnage. Est-ce que vous voulez bien nous en dire davantage?
Steller, donc je me suis appuyée, je fais beaucoup de recherches pour ce texte et je me suis appuyée sur une biographie aussi qui retraçait un peu tout son parcours. Et moi, j'ai essayé de chercher dans ce parcours certains éléments biographiques qui me permettaient un peu de creuser l'intimité, l'intériorité de ce personnage, enfin du moins de m'approprier des éléments réel de son parcours, mais de broder complètement mon imaginaire, de greffer complètement mon imaginaire à ce personnage. Donc, par exemple, et puis aussi, il y a des textes qui existent, qui sont le journal de bord de cette expédition-là, de cette année qu'il passe sur l'île en 1741-1742. Et dans ce journal-là, il n'est pas du tout fait mention d'un cours. C'est moi qui avait besoin de passer par cette image de cours parce que elle est très importante à mes yeux. Parce que en lisant le parcours de Steller, c'est le fils d'un chantre luthérien. Son père était chanteur et il prêchait par le chant, mais il faisait aussi de l'orgue. Et j'essayais de comprendre qu'est-ce qui motivait le parcours de Steller jusqu'à devenir un explorateur très loin des siens, très loin de son parcours. Et j'imaginais qu'il y avait une déception entre le père et le fils, et aussi une aventure qui était de se trouver soi-même, son propre parcours. Et ce qui avait à voir, mais sauf qu'on est rattrapé par sa propre histoire et par ce d'où on vient. Et donc c'est comme ça qu'il revient un peu à l'idée du prêche, à l'idée du rapport au langage qui est qu'il faut prêcher, donner aux autres hommes la connaissance. Pour son père, c'est la connaissance de Dieu, mais pour ce qui est de Steller, c'est la connaissance de l'animal, de ce qu'il a, de ses connaissances scientifiques qu'il a collectées autour de l'animal, et que il reprend un peu la figure paternelle devant la carcasse de cet animal pour transmettre cette connaissance aux hommes. Donc je me suis inspirée comme ça du fait de son parcours, qui soit le fils d'un chantre luthérien. Et puis après, il y a aussi Brigitta, on y reviendra plus tard, mais il a été marié avec une femme qui était la femme d'un précédent explorateur, Messer Schmidt, qui est le premier à avoir découvert la Sibérie. Et donc, il s'est vraiment marié à cette femme-là Et donc là, je tissais à partir de choses réelles des scènes autour de Messer Schmidt et de Brigitta, du décès de Messer Schmidt, du fait du deuil terrible de Brigitta et du fait qu'elle ne veuille pas refaire un naufrage parce qu'elle a déjà fait un naufrage avec un homme et qu'elle ne veut pas refaire un naufrage avec un nouvel homme. Donc ça, c'est des choses qui ont eu lieu dans la vie de Steller. Et que sur lesquels j'ai greffé mon imaginaire, que j'ai déroulé autour de scènes. C'est comme aussi Steller, il est Ben, il est aussi zoologue, il est naturaliste aussi, donc il a une connaissance des plantes. Donc j'ai essayé aussi de lire beaucoup de choses autour de quelles plantes on pouvait utiliser à ce moment-là pour l'infuser dans le personnage de Steller, pour qui ça a été très important d'observer la faune, la flore et de les collecter. Il soigne les gens, il a soigné véritablement l'équipage avec des plantes. Donc
en tout cas, pour répondre à Wilfried, qui vous demande la part de réalité ou la part d'historique, on sent bien qu'il y a vraiment un grand fond de documentation sur laquelle vous greffez votre écriture romanesque, Adèle Rosenfeld. Wilfried disait qu'il avait trouvé ce personnage ambigu, et finalement, vous utilisez, c'est assez joli, tous les deux, le mot d'échec, le mot de déception. Wilfried dit, oui, il découvre cette vache de mer, oui, il transmet de la connaissance, oui, il est complètement émerveillé face à ce gigantesque animal, et en même temps c'est quasi immédiat que cet animal disparaît et meurt de cette propre découverte.
Effectivement, j'ai été très frappée qu'il emploie le mot ambigu, parce que c'est exactement comme ça que j'ai travaillé le personnage, et toute cette histoire-là, elle est faite d'ambiguïté et de paradoxe, c'est-à-dire que c'est le premier à l'avoir vu et c'est le dernier à l'avoir vu. C'est grâce à Steller qu'on a des traces écrites du vivant de l'animal, mais c'est aussi grâce à ces mêmes traces c'est à cause de ces traces-là que l'animal va être connu et que l'animal va être braconné à outrance et donc va disparaître. Donc il y avait toute cette ambiguïté autour de
la connaissance,
de la trace et de la connaissance.
Ouais, c'est assez beau, ça me fait penser, on a consacré une émission au bestiaire des Lumières et où, à la question de, en effet, on sauve les fonds marins en les connaissant et parfois en les mettant en lumière, en mettant la lumière sur les choses, on les condamne. Et j'étais très frappée en vous lisant, Adèle Rosenfeld, de cette idée que tout se passe à partir de soi-disant terra incognita, de mondes qui ne sont pas connus avant qu'on les nomme. En réalité, ils ne sont pas connus, mais ils existent. Et les nommer, c'est les découvrir, mais c'est terriblement les menacer. On va aller du côté du Muséum d'Histoire Naturelle avec une archive de 1979. On écoute René Boutonnet, juste après un nouvel extrait de votre texte.
Je vous propose d'entrer avec moi dans cette galerie, de monter quelques marches et d'entrer dans la partie la plus secrète du muséum, là où personne ne pénètre jamais.
Alors ça, c'est une porte qui ne s'ouvre pas souvent.
Pratiquement jamais. Quelques rares fois chaque année, lors de la visite de chercheurs étrangers, de savants étrangers qui n'ont pas chez eux les trésors que nous avons ici. Il va de soi que ce qui est contenu dans cette salle constitue un trésor tout à fait inestimable, mais je n'ai qu'une crainte, en somme. Je crains très sincèrement que de nombreux spécimens qui se trouvent dans la galerie à côté ne viennent un jour ici, dans ce cimetière des espèces éteintes.
Ça voudrait dire qu'il y aurait encore une espèce disparue.
Bien entendu, il faut savoir que les espèces disparaissent à un rythme beaucoup plus rapide qu'on ne le croit généralement, surtout dans le domaine des oiseaux. Et nous n'avons aucune envie, en ce qui nous concerne, d'augmenter la population de ce cimetière.
Il m'a fallu du temps pour comprendre que le récit que je déroulais autour de la vache de mer avait cheminé souterrainement avant d'exploser dans mes veines. C'est difficile à concevoir, mais j'ai été sous l'emprise de cet animal disparu et de celui qui l'a vu pour la première fois. De cet œil et de cette main qu'il avait touché et disséqué. Celle qui, par son poids et sa hauteur, faisait figure de géante, n'eut aucune peine à se laisser abattre, comme me le murmurait le texte de Steller la nuit, ou plutôt à l'orée du sommeil, où, vibrante d'angoisse, je convoquais la chair. Et c'est d'un coup de queue, de cette queue en demi-lune, qu'elle balayait la noirceur. La nuit, dès lors, se fondait dans sa rondeur. Grâce qui m'avait pétrifiée, au moment même où, pour la première fois, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, je l'avais vue dans la galerie d'anatomie comparée. Son squelette de près de 9 mètres suspendu, ses côtes sous lesquelles j'avais marché religieusement. Chaque vertèbre formait une voûte d'ogive, et entrée d'ici, sous le corps de la vache de mer qui me contenait entièrement, il n'existait alors aucune autre possibilité que d'être saisi par les arches de ses côtes, cette étreinte venue de ces os calcifiés, dont les minuscules alvéoles me semblaient aussi vivants que les pores de la peau avec lesquels je respirais. Si ma mâchoire avait été suffisamment vivante, elle aurait exhalé, je l'imagine, une haleine venue des fonds océaniques, où des algues aussi longues que sa queue nous auraient léché l'une l'autre, et immédiatement, il m'a paru évident que j'attendais d'elle qu'elle me confiât son histoire.
Un extrait de l'extinction des vaches de mer au programme du Book Club de France Culture cet après-midi. Adèle Rosenfeld, on entend ici votre narratrice se promener dans le muséum, et juste avant la voix de René Boutonnet en 1979 qui presque priait à voix haute pour que l'espace des espèces disparues ne s'amplifie pas. On voit cette personnage contenu dans le squelette, qui est à la fois quelque chose de très matriciel, mais aussi une forme d'architecture sacrée. Est-ce que ça vient de réels arpentages dans ces muséums d'histoire naturelle où, en effet, il y a des très grands squelettes reconstitués?
Il y a effectivement dans les muséums d'histoire naturelle quelque chose d'assez frappant. Souvent, les squelettes sont présentés sous une forme vivante, presque. Ils sont mis en mouvement de telle sorte qu'on a l'impression de les voir vivants dans leur environnement naturel. Ils ont presque des expressions. Par le mouvement de leur corps, ou sinon par le mouvement de leur tête par rapport à leur corps. Et pareil, il y a toute une mise en scène dans les muséums d'histoire naturelle qui rend les squelettes très vivants. Et moi, j'avais été très frappée quand j'avais vu pour la première fois le squelette de la vache de mer, parce que il y a effectivement quelque chose de presque religieux dans l'arche de ces voûtes, et de cette gueule qui me semblait presque humaine, qui est entre le cheval et le phoque. Et ce qui est aussi frappant, c'était les tout petits panneaux qui accompagnent les squelettes. Et là, pour la vache de mer, c'est seulement quelques lignes. Et j'ai un peu l'impression, comme quand on se balade en ville, et qu'il y a dans les noms des rues, en dessous des noms de rues, on dit souvent fusillé, tué. On met souvent la façon dont les gens sont morts dans les noms de rues. Et là, c'est pareil pour la vache de mer. Sur ce petit panneau au Muséum d'Histoire Naturelle, il y a surtout la façon dont elle est morte, c'est-à-dire en seulement 27 ans, par le braconnage intensif. Mmh. Et donc, c'est ce contraste-là qui m'avait énormément frappée et qui me rappelait un petit peu toute l'histoire. Et donc, j'avais envie de compléter ce petit panneau en quelques lignes avec un roman.
Votre narratrice dit oui, voilà, c'est peut-être bizarre, mais j'ai été sous l'emprise de ce squelette, de cette forme, de cet animal. J'ai été sous l'emprise de ce texte du 18e. Il y a quelque chose de l'écriture aussi qui se dévoile dans l'extinction des vaches de mer, c'est que c'est une narratrice qui dit comment elle écrit, c'est une narratrice qui dit comment elle est visitée, revisitée, jusqu'à éclairer les motifs même de son écriture. Et on va y venir, Adèle Rosenfeld. Est-ce que pour vous c'était aussi un motif de ce roman? C'est quoi écrire? C'est quoi être tellement tenaillé par une idée que oui, on se met au travail et qu'on écrit?
Oui, il y a vraiment l'idée de l'obsession. Déjà, l'obsession pour un sujet, l'obsession pour un thème, mais un thème qui en fait n'est rien d'autre que une arcane souterraine, inconsciente, qui a toujours, cet objet, il a toujours un sens qu'on n'imagine pas au départ. C'est-à-dire que je me suis rendu compte un peu après coup que, après le récit, ce premier récit autour de la vache de mer, cette obsession, que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais habitée par un tel sujet.
Mais par contre, vous y alliez, c'est-à-dire que vous étiez en mode, ok, j'écris sur cette découverte du 18e, j'écris sur ce très grand animal, j'y vais, je ne sais pas pourquoi j'y vais, et un jour je comprends.
C'est à peu près ça. C'est-à-dire que il y a cette boulimie de recherche et cette écriture qui est très obstinée aussi. Il y a l'obsession. On parle d'obsession d'un sujet, mais il y a aussi une écriture qui s'obstine dans ce sujet et qui, et l'un et l'autre se nourrissent. Et jusqu'au moment où j'étais vraiment, où l'écriture était heurtée en permanence par cette question de pourquoi ce sujet et pourquoi, et je pouvais pas faire l'impasse de ce pourquoi j'étais animée par ce sujet, ce qui fait l'objet du deuxième récit. Et au bout d'un moment, je comprends aussi un certain nombre de liens qui se font entre mon histoire personnelle et ce sujet, et aussi comment la figure de la vache de mer, ronde, pleine, maternante, consolatoire, devient pour moi comme une espèce de figure de rondeur, de promesse, de consolation face un peu au décharnement de la fin de vie. Enfin, je comprends aussi qu'il y a des liens qui se tissent à travers ça. Et donc, il y a comme ça toute une galerie d'analogies que je retraverse avec le deuxième récit. Mais j'ai besoin d'en passer par le deuxième récit pour comprendre vraiment la traversée de l'obsession et pour que l'obsession se dénoue, en quelque sorte, se détache de moi. Mais il faut en passer par une écriture obstinée, réflexive aussi.
Pour voir ce qu'elle cache. Et c'est très beau de lire cette phrase qui ouvre la deuxième partie, je crois presque, qui dit la digression parfois permet d'éviter qu'on nous trouve dévêtus dans l'évidence. Et la deuxième partie de votre livre, très resserrée, mais permet en effet de voir un peu plus nu quelques évidences. Et puisqu'on a commencé par évoquer avec vous, Adèle Rosenfeld, la façon dont, dans un premier temps, par cause de surdité partielle, vous entendez le langage troué, mais d'un seul coup, cette deuxième partie de votre texte nous permet d'entendre « vache de mer » d'une manière totalement incroyable, comme si on avait une deuxième oreille. Et bon, on se proposait d'entrer dans cette deuxième partie avec la voix de Georges Perec, qui met lui aussi du temps à comprendre qu'en écrivant le livre La Disparition et en enlevant le E, c'est pas seulement la lettre E, mais aussi le E, E-U-X de toutes ces personnes décimées par la Shoah et dont il a été, et le monde avec, privé.
J'ai décidé de me priver de la lettre la plus importante en français, qui est la lettre E. Je l'ai décidé d'une façon abrupte, et en me disant au début que c'était pas possible, qu'on ne pouvait pas écrire. Effectivement, au début, on n'arrive pas à écrire. Alors, ce qui a été pour moi fascinant, c'est que une fois donné cette contrainte, le livre est sorti, je dois dire, tout seul. Enfin, il y a eu une espèce d'automatisation de l'écriture, de l'invention, qui n'a jamais cessé. Et qui, en plus, s'est mis à raconter tous les problèmes que je me posais, moi, à propos de l'écriture.
Vous voulez dire que la suppression de la lettre E, c'est-à-dire l'obligation d'employer des mots dans lesquels il n'y a pas la lettre E, contribue à inventer l'histoire?
Elle contribue à inventer l'histoire, d'abord, très simplement, parce que l'histoire que l'on va raconter va évidemment être l'histoire de cette disparition.
Le chant du merle était venu déchirer l'espace sonore de la chambre du pavillon, avec des sifflets puissants et rocailleux. J'avais appris que quand les jeunes Rousserolles Verderolles étaient en âge d'apprendre à chanter, leur père déjà s'était tu. Lorsque la guerre fut finie, tes parents étaient venus te chercher, méconnaissables. Tu n'as pas parlé de ce qui t'est arrivé, eux non plus. Vous vous êtes regardés comme des étrangers. Tu avais pourtant répondu à mes questions de jeune fille, osé un récit à rebours d'un silence familial dont je pressentais la douleur jusque dans les tressaillements du corps à l'approche de ce qui révèle. Bien plus qu'une histoire, car il fut un temps où énoncer la judéité, c'était mener ses proches à la perte. Tout depuis l'enfance avait pris la sulfureuse teinte du secret. Un carré de chocolat mangé à la dérobée, un filet de whisky dans un verre à eau, une émotion qui bordait les paupières. Dans mon histoire ou dans ma culture, les mots étaient choisis pour dérober, des tournures pour emprunter des détours et abriter les douleurs dans l'ombre qu'aucun mot ne viendrait éclairer. Même les maladies n'avaient pas de nom. Elles étaient seulement les symptômes que la pudeur réprimait. Peut-être en écrivant tout cela, voulais-je contrer ce plan génétique et m'affranchir d'un silence trop mortifère. Rompre une certaine fidélité à la douleur et ne plus penser à ma surdité, trouvant l'origine dans cette histoire-là. Même si s'inventer des mythologies est ce qui nous sauve.
Bon, J'étais un peu hésitante, Adèle Rosenfeld, parce que ça fait partie de la très grande émotion du texte d'arriver sans être prévenue dans la deuxième partie et de découvrir avec la narratrice tous les échos de cette vache de mer gigantesque découverte au XVIIIe siècle, les échos que ça peut avoir dans son oreille, et je choisis mes mots. Mais on va y aller quand même, on est d'accord, j'espère qu'on gâchera pas complètement les auditeurs et les auditrices. Il y a évidemment toute l'aventure de votre langue qui fait partie du plaisir. Qu'est-ce que comprend la narratrice dans cette deuxième partie auprès d'un grand-père qui va bientôt mourir ?
La narratrice a comme elle le dit là, il y a l'idée des mythologies personnelles. Mm. Il y a plusieurs choses, mais la mythologie personnelle, elle est affublée du handicap de la sourdité, donc elle entend pas. Et le grand-père, lui, perd la mémoire en fin de vie. Plus il perd la mémoire, plus elle perd l'ouïe, elle a le sentiment que les deux histoires sont liées et que si elle est sourde, c'est aussi parce qu'il y a une histoire indicible qui la précède et que c'est cette mythologie, elle s'invente cette mythologie, elle pense que sa sourdité a à voir avec cette histoire qui a été tue, mais qui est aussi constitutive de sa famille et que c'est des choses qui sont indicibles, qui se trouve logée dans une oreille qui n'entend pas. Mmh. Donc il y a une espèce de
qui se double aussi du fait qu'historiquement, il fut un temps, puisque ce grand-père a été enfant caché, où il valait mieux ne pas dire.
Exactement.
Et il ne valait mieux ne pas entendre un nom, un prénom, ou l'idée qu'un tel puisse être juif. Et que d'un seul coup, l'idée de ne pas entendre et d'avoir ce langage troué ou silencieux peut être vertigineux quoi, dans ce qu'elle dit de la généalogie ou de la génétique du rapport à la douleur ou à l'histoire.
Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout ce jeu de langage qui a à voir avec le secret et le fait de ne pas dire, le fait de cacher. Mm. C'est ce qui préserve la vie. Mm. Donc on le voit pour les vaches de mer, pour le précédent texte, mm. mais on le voit aussi là dans une histoire familiale historique. Et aussi dans tout ce rapport aux mots, c'est-à-dire que là, dans la précédente partie, il s'agit de nommer, on donne son nom à une espèce, à une terre. Il y a toute l'aventure du langage qui est contenue dans la première partie, c'est-à-dire que l'homme s'approprie le monde en donnant des noms. Mais ces noms-là sont porteurs d'une histoire qui les trompe aussi. Enfin, il y a toute une aventure du langage qui est de l'ordre de la vie et de la destruction. Enfin, donc il y a un énorme paradoxe autour de ça qui est comme le secret, c'est-à-dire que le propre du secret, c'est de ne pas être révélé. S'il est révélé, il perd sa nature même de secret. Et donc c'est un peu toute cette architecture là qui s'emboîte dans ces deux récits là.
Avec la magie, et c'est pas rien non plus d'entendre Perret qui parle là de la disparition, mais la construction binaire de votre texte peut aussi faire penser à W ou le souvenir d'enfance, avec vraiment l'alternance à la fois du récit mémoriel et de cette île fantasmagorique. Mais peut-être pour en revenir à cette question du langage qui est vraiment au cœur de l'extinction des vaches de mer, c'est que ce grand-père raconte combien les vaches dans la ferme où il a été caché ont eu une importance et combien ils ont presque joué le rôle de mère alors que la mère était au loin parce qu'elle avait confié l'enfant pour le sauver. Donc il y a aussi l'idée fascinante, puisqu'on en venait à l'obsession de la narratrice, qui peut-être fait l'hypothèse que si elle a été obsédée par cette vache de mer au XVIIIe siècle, ça aurait à voir avec les vaches et la mer dans l'histoire de son grand-père, ce qui est peut-être trop lacanien pour certains, mais si beau et si littéraire et fascinant pour d'autres.
Et il y avait tout à fait cette dimension-là de des vaches de terre qui sont vraiment le cœur du texte, parce que le grand-père donc a été caché dans une ferme et a vraiment trouvé son refuge auprès de vaches qu'il a considéré comme des liens, presque des liens familiaux, comme Steller lui décrit les vaches de mer comme mère, père, comme une famille idéalisée. De la même manière, là, le grand-père perçoit la vie à la ferme comme une famille recomposée, idéalisée.
Au point que quand on vient le chercher après la guerre, il hésite à partir, bien sûr. C'est très difficile pour lui de quitter cet endroit. Ouais.
Oui, il ne reconnaît pas le familier complètement déformé. Et c'est cette notion de familiarité et d'étrangeté que j'avais aussi beaucoup envie de convoquer dans le texte. Et donc le grand-père se retrouve donc aussi caché avec les vaches, mais le langage se déforme aussi au contact de ces vaches, parce que il ne parle plus le yiddish, il ne parle plus le français, il adopte la langue, le patois. Et c'était aussi cette déformation aussi de la langue dans cette ferme cachée que je voulais aussi convoquer dans l'histoire.
Et tout est en spiralé. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et le Book Club continue comme chaque semaine en parlant de la littérature jeunesse. Avec vous, Raphaël Bott. Bonjour Raphaël.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous prenez un petit peu d'avance. Dans quelques jours, dimanche, ce sera le 8 mars 2026, journée internationale des droits de la femme. Et vous souhaitiez en profiter pour évoquer une bande dessinée.
Ben, ce sont d'abord les lettres à la typographie argentée aux allures hard rock des années 70-80 qui m'ont fait de l'œil. Polly peut tout, indique le titre. Queue de cheval, chevelure blonde, bras levés, poings serrés, comme si cette jeune fille en couverture célébrait une victoire. Son visage trône en médaillon et en dessous deux vignettes. L'une avec un sanglier, le groin en l'air, sauvage, indomptable, et l'autre avec une manette de jeu vidéo. Mais ensuite, en tournant la page, on tombe sur un autre portrait de notre Polly. Une jeune fille parfaite, au sourire discret. Et ce qui saute au visage, c'est l'absence de pupille dans ses yeux. On en reparlera tout à l'heure. Et le visage est cerné d'un cadre ovale. En dessous, il est écrit « Polly et Polly ». Donc c'est un contraste total avec la première impression. Et en deux images, ce début évoque déjà le conditionnement social et la façon sous-jacente, cette injonction à ne pas faire de vagues, à dire merci pour tout, à accepter docilement. Tout le monde aime Polly et Polly aime bien qu'on l'aime. Après tout, ce n'est pas interdit. Polly fait plaisir à voir. Ah oui, ça, vraiment. Peut-on lire non sans une certaine pointe d'ironie accentuée par les illustrations qui dévoilent un quotidien rassurant, photos de famille sur la porte du frigo à l'appui.
Des familles et un quotidien où souvent, c'est vrai, on aime et probablement à tort les petites filles Polly, mais j'imagine que chez vous et dans cette bande dessinée, quelque chose va dérailler.
Effectivement, Marie, ça va dérailler parce que Polly se fait agresser dans un bus. Un homme âgé l'a approché de bien trop près, l'a fortement collé, l'a tout bonnement ploté, en deux mots. Il l'a agressé sexuellement et Polly n'a rien dit. N'a rien fait. La nuit suivante, elle ne dort pas, elle a honte de ne pas avoir réagi. Mais heureusement, sa grande sœur est là, ses piercings et ses cheveux roses aussi, et surtout son jeu vidéo Scream Race 4. Ne t'inquiète pas, Polly, ici tout est permis, ça va cogner. À partir de là, le texte donne des coups, il joue avec les clichés et les formules qui participent à en faire accepter souvent bien trop. Le crapaud a bavé, la blanche colombe va le dépecer. Polly a sa manette entre les mains, elle joue, elle passe les niveaux, c'est le fight direct avec la vieille dame aigrie qui lui fait une réflexion. Et forcément, quand ça se corse, quand ce sont les propositions répugnantes de la part d'un vieil ami de la famille, eh ben c'est un coup bien placé, une clé de coup bien vrillée, la tête arrachée, game over Jean-Marie. Et il y a comme ça une série de situations assez excessives, on va dire poliment.
Même presque violent, disons-le franchement. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce parti pris, Raphaël ?
Eh ben on n'est pas dans la demi-mesure. Bien sûr, ce sont pas les bonnes réponses de la vraie vie. Non, on ne peut pas arracher la tête de son agresseur, quelle que soit l'agression. Il y a beaucoup de livres documentaires adressés aux jeunes adolescents et adolescentes sur le consentement, sur les violences sexuelles, des pédopsychiatres les préfacent, des médecins les relisent, des conseils y sont partagés, des numéros d'urgence délivrés. Des romans réalistes aussi traitent ces thèmes avec plus ou moins de subtilité littéraire pour atteindre surtout leurs objectifs de sensibilisation. Mon idée, c'est pas d'opposer ces ouvrages à cette bande dessinée. On est complètement ailleurs. Et cette proposition-là d'auteur, enfin d'autrice en l'occurrence, puisqu'il s'agit de Camille Victorine et Anna Vanda Goguzé, m'a complètement convaincue par son audace. Ce livre transgresse les codes des approches pédagogiques, pratiques, rassurantes. Ce n'est pas non plus un manuel d'autodéfense pour apprendre à se protéger. C'est autre chose. Il saisit autant qu'il fait rire. Et pour reprendre les mots de Léa, la fameuse grande sœur, c'est de la fiction, voyons.
Et rappelons aussi que c'est une bande dessinée. Vous avez évoqué les couleurs très vives argentées qui vous ont attrapé l'œil dès le départ. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur son aspect visuel?
C'est un dessin au trait, c'est épuré, lisible, graphique. Et en même temps, il y a beaucoup de détails, de références. Les pages dédiées au combat des jeux vidéo sont particulièrement réussies. Les curseurs sont là aussi poussés au maximum. J'ai évoqué au début de cette chronique les yeux des personnages. Ils sont blancs, sans pupilles. Et ça accentue cette atmosphère de monde parallèle, de comédie sociale où chacun porte un masque. Ils font aussi de Polly, de sa sœur, des agresseurs, des personnages génériques, des sortes de profils types. Voici un manifeste exutoire. Il est joyeux, il est rageux, il pense, avec un A. Polly a appris à crier et faudra pas la chercher.
C'est bien entendu. La tradition des livres jeunesse féministe n'est pas nouvelle, on en parle ici régulièrement, c'est tant mieux. Des textes qui mettent en scène des héroïnes féminines fictives ou réelles sont très nombreux. On en redemande toujours et on espère que ça se diversifie. En tout cas, voilà un pas de côté à tenter. C'est la bande dessinée Polly peut tout de Camille Victorine et Anna Vanda Goguzé, éditée par La Ville Brûle. Vous recommandez pour quel âge, Raphaël Bott?
Plutôt à partir de 12-13 ans.
D'accord, on mettra la référence sur lecturejeunessefranceculture.fr. À la semaine prochaine. On termine l'émission Adèle Rosenfeld en cherchant la musique dans les livres avec ce qu'on appelle le grand jeu des pages musicales. Donc on propose à nos auditeurs et auditrices de partager tous les extraits des textes qu'ils sont en train de lire et où ils voient surgir l'évocation d'un air musical. Et puis nous jouons nous aussi nous-mêmes avec les livres des auteurs et autrices qui sont nos invités. On a donc trouvé de la musique dans votre livre « L'extinction des vaches de mer ». Décréter l'extinction d'un animal de près de 9 mètres est chose aisée. Pas besoin de s'approcher du rivage. Pas besoin de rester des heures immobiles à fouiller du regard la présence supposée de l'animal. Pas besoin de tendre l'oreille pour attraper un souffle, un sifflement, un bourdonnement. Décréter l'extinction d'une espèce aussi grosse qu'un géant du Quaternaire que fut la vache de mer ne coûte pas grand-chose à l'observateur. Ce n'est pas comme décréter la disparition d'un insecte ou d'un microbe, être vivant difficile à percevoir à l'œil nu, comme les souvenirs, les sensations, ceux qui nous ont quittés, dont on ne peut déplorer la disparition qu'en constatant sur le pare-brise d'un voyage en voiture qu'il n'y a plus ce crépitement qui accompagnait la playlist du Club des 27 avec Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse. Ces artistes disparus dans de tragiques circonstances, tous à 27 ans, qu'on écoutait avec la bande-son des insectes morts. Merci beaucoup, Adèle Rosenfeld, d'avoir été avec nous pour évoquer votre texte « L'extinction des vaches de mer » aux éditions Grasset. Et au début de cet entretien, on a aussi évoqué votre précédent livre « Les méduses n'ont pas d'oreilles », aussi paru aux éditions Grasset. Au son, c'était Olivier Arnaud à la réalisation, Cassandre Puel. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Léa Weiss-Grus, Marianne Chassor, Lou Quepovillier, Julie Gastal, Noé Margas et Alexandre Alaï-Begovic, avec qui vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club. I